Le Liban, encore une fois, une francophonie heureuse ou malheureuse. C'est ce que j'essaie de suivre avec vous. Et la dernière fois, je vous ai promis qu'en partant à Bruxelles pour l'Union européenne, une réunion devait être une des plus importantes. Des amiraux, des hommes politiques, des commissaires sont en train d'étudier une nouvelle proposition. Une proposition pour la plus grande puissance du monde, qui, arrivant au Sud-Liban, ce Sud-Liban bombardé, des villages qui disparaissent, une milice qui a promis la résistance à son peuple et qui n'a pas tenu parole, une milice qui s'est alliée avec la puissance iranienne, un empire mort mais qui veut ressusciter dans la région, et voici que quelques éléments, des jeunes, martyrs de leur grande cause, qui vivent encore les souffrances de leur grand prophète du 7e siècle, et qui n'arrivent pas à s'affronter, bien sûr, et à résister devant l'armée la plus puissante du Proche-Orient, l'armée du Tsahal. Alors, ce que l'Europe voulait proposer, c'est que, après le départ de la FINUL, qui se prépare en principe pour décembre 26, qui est une force surtout en majorité française et italienne, et la rencontre entre Macron et Mélanie n'était pas innocente. Il va falloir proposer aux États-Unis une présence européenne avec ces deux forces majeures qui ont fondé la FINUL en 78 et une FINUL qui a connu des commandements français illustres, comme celle du général Pellegrini, qui était plus libanais que les Libanais, et qui a beaucoup aidé avec son caractère, avec la présence de la mère Allemagne, qui a supervisé le retrait de la communauté franco-libanaise de Beyrouth jusqu'à Chypre, lors de la guerre qui fut une victoire divine, n'oublions pas, pour le Hezbollah en 2006, et le général italien, de même que beaucoup d'amiraux italiens, et le plus illustre d'entre eux, c'était Graziano. L'Italie s'est beaucoup impliquée dans la FINUL, et la France aussi. Ils sont connus de beaucoup de villages. Les Français à Der Kifa font partie du village même. Ils sont servis, honorés, de même que les Italiens. Mais malheureusement, dernièrement, les francs-tireurs ont pu avoir quelques-uns de ces soldats, dont trois Français d'ailleurs. Et ils furent visés volontairement, c'était presque des crimes de guerre. Et n'empêche, l'Union européenne veut encore exister. La dernière visite de Le Drian n'avait pas d'autre but, garder pour l'Europe une présence européenne avec la force qui se prépare à venir. Aujourd'hui, la force que nous prévoyons presque d'après le dernier accord de Washington entre le gouvernement libanais, s'il vous plaît, et le gouvernement israélien, est une force qui doit coordonner l'armée israélienne avec l'armée libanaise. Et nous allons rentrer le détail avec notre invité, comment cette armée libanaise va pouvoir remplacer avec force l'armée israélienne sans être menacée par les milices du Hezbollah, qui sont furieux, qui sont contre cet accord et qui crient même à la guerre civile. Mais a remarqué aujourd'hui notre président en général lui-même, ancien chef d'état-major des armées libanaises, cela n'impressionne plus personne. L'attitude de leur chef est assez ambiguë. Le plus illustre d'entre eux, c'est Nabih Berri, qui est à la tête du Parlement libanais et qui parle peut-être d'une guerre civile, d'une fitna, comme il dit, mais l'homme est partagé entre la puissance des États-Unis où il a tous ses intérêts, toute sa fortune, à Michigan, un maire chiite américain d'origine chiite libanaise vient d'être élu, des stations de service partout, une fortune qu'il peut perdre s'il s'oppose complètement aux États-Unis. Et de l'autre côté, l'alliance avec l'Iran, qui vit mal le dernier accord de notre Trump, parce que c'est un accord piégé. On a beaucoup, trop accordé à l'Iran pour que l'Iran puisse jouer encore le rôle d'un rogue state, d'un État terroriste. On a beau dire que Trump a perdu, il n'a rien perdu, en fait, l'Iran est sous observance. Et si elle ne livre pas tout ce qu'elle doit livrer, à commencer l'enrichissement de l'uranium, et si elle ne se fait pas inspecter sur ce domaine, les bombardements qui, d'ailleurs, de temps à autre, recommencent, recommencement pour du bon, et ça sera la destruction du régime. C'est plutôt la stratégie d'Israël qui agit derrière. Et c'est pourquoi l'Union européenne, pour revenir à mon but, a bien fait de proposer cette force qui se prépare. Selon les conseillers, elle fera la moitié de la finule. Elle aura un ordre précis, mais encore une fois, un ordre qui ne peut dépendre que de l'armée libanaise. Et pour conclure, et pour recevoir mon invité du Liban, et réentendre les trompettes de Handel avant, sachez que l'Union européenne a une certaine sagesse. L'Amérique en a une autre, et il est dans l'intérêt du Liban et de l'armée libanaise que ces forces européennes soient présentes pour que l'on n'accuse pas la grande puissance Israël de travailler à un nouvel empire, une nouvelle occupation. Et voici que je reçois, et c'est devenu pour les auditeurs un homme habitué qui, sur les ondes libanaises du Proche-Orient, le général Georges Nader, ancien commandant des forces spéciales du Liban et ancien major de l'école des études spéciales à l'école de guerre à Paris, où je l'ai connu, est très écouté. Bonjour mon général Georges Nader, vous m'écoutez, vous m'entendez? Voilà, alors vous m'avez entendu, je reviens de Bruxelles, et en fait là-bas se prépare une proposition importante. Alors ma première question, après la visite de Le Drian, vous avez eu écho de cette volonté des Européens de rester après le départ de la FINUL sous une forme d'une nouvelle force européenne. Est-ce qu'on en parle sérieusement au Liban?
Oui, bien sûr. On a bien entendu la visite de M. Le Drian, l'envoyé spécial du président Macron, qui cherche à former, bien sûr, en collaboration avec le gouvernement libanais, une force européenne basée sur les Français, les Italiens, et je crois les Espagnols aussi, et bien sûr appuyée ou bien soutenue par l'Union européenne. Maintenant, on attend toujours le soutien américain ou bien l'accord américain pour former cette force-là. Mais la question, c'est que quelle est la légalité de ces forces-là, de cette force européenne qui va se déployer au sud du Liban, qui va remplacer les FINUL. Les FINUL avaient la légitimité internationale, ils étaient les forces de l'ONU, donc la force qu'on va le former par les armées européennes, notamment les Français et les Italiens. Quel sera le rôle de cette force, de ces forces-là? Quelle est la légitimité de ces forces-là? Quelles sont les limites d'utiliser la force contre qui? Est-ce que leur métier sera, ou bien leur mission sera seulement le soutien de l'armée libanaise, ou bien se va déployer aux frontières pour éviter le contact entre les Libanais et les Israéliens? Donc, toujours, on cherche toujours quels sont les buts de cette force, quelles sont les missions de ces forces-là, et quelle est la légitimité des forces-là. Il y a une légitimité internationale. Donc, est-ce que les ONU vont rectifier ces forces-là, ou bien pour remplacer les FNUL. Donc, plusieurs questions sont à poser. On va attendre les semaines qui viennent pour bien déclarer ou bien éclairer la mission et la formation de ces forces-là.
Alors, mon général, merci pour cet éclairage. Et nous sommes heureux ici de savoir que les Libanais sont au courant de cette force parce que la France et l'Italie ne comptent pas disparaître d'un seul coup de cette région où ils sont plus de 28 ans présents. Mais il me semble que les accords de Washington, quand on les regarde de près, donnent un rôle à l'armée libanaise que jusqu'à maintenant, depuis le début de la guerre en 1975, nous n'avons pas connu. C'est-à-dire l'armée libanaise a une charge importante de reprendre les villages occupés et bien sûr détruits en grande partie pendant l'affrontement entre Israël et le Hezbollah, et que cette armée sera lourdement aidée par les États-Unis, et même l'armée d'Israël veillera, selon la nuance que j'ai pu comprendre, vous me corrigerez si j'ai un peu trop forcé l'interprétation, que l'armée d'Israël sera présente pour que si le Hezbollah est attaqué de nouveau par ses milices ou elle aura un problème, qu'elle interviendra pour un peu aider l'armée libanaise à assurer son rôle. Est-ce que cette interprétation vous paraît la bonne ou on exagère un peu?
Non, je crois que ce n'est pas tout à fait la mission ou bien l'application de l'accord signé entre les Libanais et les Israéliens à Washington. Laissez-moi au début éclairer comment s'est déroulé ces négociations. Vous voyez que le président de la République et le gouvernement libanais ont pris une décision courageuse de faire des négociations directes avec Israël à Washington. Ces négociations ont été rejetées catégoriquement par Hezbollah et par l'axe de résistance, comme on appelle, lié organiquement à Iran. Ils ont rejeté les négociations et tous les accords qui vont être signés afin de ces résolutions, négociations. Donc, la seule force, ou bien la seule carte de force dans la main du négociateur libanais, c'était sa légitimité. Légitimité parce que l'institution, l'article 52 de la Constitution libanaise, prévoit au président de la République de lancer la négociation à l'aide du premier ministre. Donc, la seule carte de force avec le négociateur libanais, c'est sa légitimité basée sur la Constitution. Donc, mais les revendications du négociateur libanais, ce sont quatre revendications. La première, c'est le cessez-le-feu, le retrait israélien du territoire libanais occupé, le retour des prisonniers et le retour des déplacés dans leur village. Mais c'est légitime et c'est logique aussi. Mais le négociateur israélien, appuyé par les Américains, a une seule revendication, c'est le désarmement de Hezbollah. La grande question fondamentale qui se pose, est-ce que les autorités libanaises vont désarmer Hezbollah, veulent désarmer Hezbollah, et s'ils veulent, si c'était le cas, donc qu'ils commencent à appliquer l'accord signé, ça s'appelle accord de cadre, signé la semaine dernière à Washington. L'accord, bien sûr, c'est de majorité de cet accord, c'est au profit d'Israël, bien sûr. Et l'accord rejette l'Iran du Liban. C'est-à-dire, il n'y a pas de rôle à l'Iran pour l'utiliser. L'Iran joue la carte de Hezbollah. Hezbollah est la carte majeure aux mains de l'Iran pour utiliser à la table de négociation avec les États-Unis. Donc, l'Iran, je crois, ne veut pas laisser cette carte-là, elle va jouer cette carte et elle va appuyer Hezbollah. Et Hezbollah a rejeté cet accord, donc on arrive à une crise. Demain, si l'armée libanaise veut remplacer les Israéliens dans les zones contrôlées ou bien contrôlées par l'armée israélienne, si Hezbollah refuse, On arrive donc à un confrontement entre l'armée libanaise et Hezbollah. Parce que Hezbollah, il a déclaré il y a plusieurs chefs de Hezbollah qui ont déclaré clairement et fermement qu'ils sont contre cet accord-là, ils sont contre la négociation, contre cet accord, et ils veulent faire obstacle à exécuter cet accord. Donc, si l'État libanais insiste toujours à appliquer cet accord, elle va confronter avec Hezbollah. Et là, à mon avis, le confrontement entre l'armée libanaise et Hezbollah est inévitable. Inévitable. C'est une question de temps. Seulement, c'est de demain, après-demain, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je ne sais pas, mais c'est inévitable. C'est le grand problème qu'on va arriver à se confronter dans les jours qui viennent.
Donc, merci pour toutes ces précisions. En général, on les entend rarement, mais quand on entend Nabih Berri à la tête du Parlement, d'une communauté chiite et du parti Amal, l'espoir, des phrases ambiguës comme celle prononcée par lui il y a deux jours, que mon peuple de Liban, le Liban, c'est la fitna, c'est la guerre civile que je vois, pour ne pas dire plus et utiliser des gros mots et des insultes. Qu'est-ce qui arrive alors qu'il est partagé entre les États-Unis, où il y a beaucoup d'intérêt, je le sens, on le dit, et l'Iran? Qu'est-ce qui arrive devant cet homme octogénaire, mais qui est d'une grande expérience politique et d'une grande subtilité? Quel rôle il joue?
Le grand renard de la politique libanaise, il y a quatre décennies, c'est Nabih Berri. Nabih Berri. Grand renard. Nabih Berri parle toujours d'une guerre civile entre les Libanais. La guerre civile, cher Antoine, c'est entre des milices confrontées, des communautés différentes, des partis différents. Et non pas entre une armée légale appuyée par la majorité parlementaire et la majorité populaire, appuyée par tous les pays arabes et par l'Occident, et notamment les États-Unis et la France, qui a la légitimité d'utiliser la force, et elle seule la légitimité d'utiliser la force, et une milice qui est outlaw, comme on dit en anglais, hors de la loi, s'est classée comme milice hors de la loi par le gouvernement libanais le 2 mars dernier 2026. Donc, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre entre le gouvernement libanais et la majorité parlementaire libanaise et la majorité du gouvernement libanais, 22 ministres contre 22 ministres appartenant à Hezbollah, ont signé la décision de considérer Hezbollah comme une milice hors de la loi. Donc, ce n'est pas une guerre civile. Toujours, lorsque Hezbollah se met sous pression diplomatique et sous pression occidentale et libanaise, toujours il parle de fitna, il parle de la guerre civile. Ce n'est pas une guerre civile. Une guerre civile a besoin de deux protagonistes. Hezbollah possède la force et possède l'arme. Quelle est la partie contre qui possède l'arme? Il n'y a pas. Donc, la guerre civile peut être créée par deux et pas par un. Donc, Hezbollah contre l'État libanais. L'État libanais, ce n'est pas un protagoniste, ce n'est pas une milice, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une communauté. L'armée libanaise et l'État libanais représentent tous les Libanais. Donc, c'est une guerre, si ça aura lieu, entre la majorité des Libanais, la majorité politique, la majorité parlementaire, la majorité des ministres, une grande majorité des ministres, contre une milice liée à Iran. Hier, ils ont brûlé le drapeau du Liban à l'autoroute de l'aéroport de Rafiel Hariri. Ils ont brûlé le drapeau du Liban et ont dit « c'est pour Iran, on a brûlé le drapeau libanais ». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour un citoyen libanais qui brûle son drapeau national pour à profit d'un pays étranger? Si c'est un Français va brûler demain le drapeau français au profit de l'Amérique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Il faut être en prison. C'est le drapeau national.
Donc on peut dire, mon général, qu'il y a une nouvelle mentalité qui est en train de naître chez les généraux libanais, la vôtre, qui a toujours été la vôtre, parce que quand il s'agissait de régler le problème d'un des camps palestiniens dans le nord, vous qui étiez à la tête de ces forces spéciales, vous l'avez mené, vous avez gagné, et on a parlé d'un danger avec le peuple palestinien et sa cause, et on a vu le contraire, puisque Abbas est venu à Beyrouth saluer le président libanais et presque demander pardon. Est-ce qu'on peut imaginer, avec la perte de popularité du milice Hezbollah auprès de son peuple, de chiites du Sud, qui sont tous maintenant des réfugiés, un peu comme les Palestiniens le sont, les pauvres sous les tentes, est-ce qu'on peut dire que s'il y a affrontement entre l'armée libanaise et ses milices, le problème sera réglé très vite, sans guerre civile, et ces gens seraient considérés, poursuivis comme des hors-la-loi, et la mentalité du peuple libanais assimilera cette attitude, sans parler de guerre civile, comme c'était la guerre que vous avez commandée contre les Palestiniens?
Tout à fait. Je vous rappelle, cher Antoine, au début de la guerre de Nahal Bared, en 2007, donc ça fait presque 19 ans, c'était commencé, je crois, en 20 mai 2007. Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, a dit « Les camps palestiniens sont des ligne rouge, on ne peut pas attaquer des camps palestiniens. » Et vous savez très bien que l'organisation terroriste Fatah al-Islam sont des musulmans sunnites. Quelques politiques et quelques partis politiques, et notamment Hezbollah, il a dit « Ah, donc c'est une guerre contre les musulmans sunnites, les musulmans sunnites vont quitter l'armée libanaise, ils ne vont pas attaquer leurs frères. » Je vous rappelle qu'on a perdu 170 hommes durant 105 jours de combat urbain, dans des zones urbaines très difficiles. La majorité de ces martyrs-là sont sunnites et appartiennent à la région qui entoure le camp d'Ahl al-Bayt. Donc, c'est une raison qui dit que l'armée libanaise, c'est l'armée libanaise, le chiite à l'armée libanaise, c'est un militaire. Le sunnite à l'armée libanaise, c'est un militaire. Le chrétien à l'armée libanaise, c'est un militaire. Ce n'est pas un chiite, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un sunnite. Non, il s'élève à l'appartenance nationale, à la nîme nationale, au drapeau libanais, et non pas au drapeau de Hezbollah de l'Iran. On voit, par exemple, demain la guerre ou bien le combat aura lieu avec le Hezbollah. Il y a quelques gens, quelques officiers et quelques sous-officiers ou bien militaires de rang qui vont quitter l'armée libanaise parce que par rapport à eux, son frère combat avec le Hezbollah, son voisin, peut-être, mais c'est une très petite minorité qui ne change pas les principes et le commandement de l'armée libanaise et le travail de l'armée libanaise sur le terrain. On n'a pas peur d'une guerre civile comme a lancé Nabih Berri et les Hezbollah. Ce n'est pas une guerre civile. La grande majorité du peuple libanais, et même les chiites, soutient cette guerre parce que maintenant, on parle, cher Antoine, de 1 300 000 déplacés du sud du Liban et du Bekaa dans les zones chrétienne et druze et musulmans sunnites. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Leurs villages et leurs villes sont complètement détruites. Pas d'infrastructure. Ils ne connaissent pas même où était sa maison. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Le soutien de Hezbollah qui a, on dit qu'en libanais, Azam Dabba Karmo, il a invité la machine de destruction israélienne a détruit le sud du Liban pour soutenir Gaza et pour soutenir l'Iran. Maintenant, la majorité de la communauté chiite pense d'une façon correcte et il soutient l'accord entre le Liban et Israël, même qu'il est au profit de majoritaire à Israël, mais on n'a pas d'autre choix. Israël occupe 8% du territoire libanais. Israël a détruit 70 village et ville d'une façon complète. Elle a poussé 1 300 000 Libanais à se déplacer de leur village. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'elle attend? On n'a pas d'autre choix. La décision courageuse de négocier avec Israël, c'est une décision très bien faite. L'accord, on va appeler l'armée libanaise, ou bien soutenue, bien sûr, par les autorités politiques libanaises, va appliquer cet accord-là, même si Hezbollah ne veut pas. Et à mon avis, je voudrais répéter la phrase, le conflit entre Hezbollah et l'armée libanaise est inévitable. C'est une question de temps.
Donc, vous êtes en train de nous dire, avec ce langage assuré et presque professionnel du côté de l'armée libanaise, qu'il y a un nouvel esprit qui est en train de naître chez cette armée et que Israël a finalement accepté que l'Amérique donne des armes un peu plus lourdes qui lui étaient interdites depuis l'armistice de 49. C'est-à-dire, nous allons avoir une armée libanaise à qui on va confier une force un peu plus importante et qui lui a toujours été interdite.
C'est pas un nouvel esprit, cher Antoine. C'est l'esprit de l'armée libanaise. C'est déjà l'esprit de l'armée libanaise.
Et les armes maintenant, qu'on promet sont plus forts qu'avant.
D'accord. Avec l'appui des États-Unis, oui. Mais moi, j'ai bien noté que lorsque j'étais le commandant du régiment héliporté, on a bien reçu des aides américaines, d'entraînement, de munitions, des cadres, des outils, des armes américains, presque chaque année à 250 à 300 millions de dollars chaque année à l'armée libanaise. Les Américains ont promis à l'armée libanaise d'augmenter cette aide-là pour avoir une armée professionnelle et une grande aide à l'armée. Après le désarmement de Hezbollah, on revient au début. C'est le seul problème maintenant au Liban. C'est le désarmement de Hezbollah. Si les autorités libanaises, avec l'armée libanaise, peuvent arriver à désarmer Hezbollah, je vous assure que les Israéliens vont se retirer du Liban et les Israéliens vont quitter le Liban. Et les réfugiés vont revenir, et les prisonniers qui ont combattu Israël, les combattants de Hezbollah qui sont maintenant en Israël, vont revenir, et on va reconstruire ce pays-là. On ne peut pas supporter toujours une guerre après une guerre après une guerre. En 1993, 1986, 2006, 2023, 2025, 2024, 2026. Donc, on va toujours vivre dans l'état de guerre. Il faut mettre fin à cet état de guerre, mais avec le retrait israélien des territoires occupés et avec le désarmement de Hezbollah. Pas d'autre choix.
Mon général, je vous remercie beaucoup. Je vous ai promis de ne pas trop vous garder, mais nous allons attendre. Il y a des notes d'espoir incroyables, que ce soit du côté de l'Union européenne pour garder une présence française importante pour le Liban. La France reste la mère patrie, même si la stratégie américaine est dominante et qu'Israël, dans cette région, ne tient pas compte de la présence de la FINUL et qu'on annonce la fin de cette mission qui date quand même depuis 1978 et qui a fait beaucoup de bien socialement, mais qui n'a pas eu toutes les missions qu'elle pouvait réaliser, car on avait peur aussi d'une guerre entre des forces étrangères et ces milices. Bah, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, mon général, parce que beaucoup de choses vont se passer. Et avec les présences de soldats comme vous au Liban, nous espérons que le général Joseph Aoun, maintenant président, et qui joue un rôle incroyablement, vraiment structurant pour le pays, on espère la visite qu'il va faire, je crois, à Washington. Bientôt, le président Trump va le recevoir. Ça va être une première pour un président libanais en juillet, après les festivités de 4 juillet. Nous allons suivre ça ensemble et nous reprendrons contact pour voir un peu cet avenir du Liban et de la France ensemble. Merci, mon général Georges Nader, et je vous souhaite une bonne soirée avec vos amis.
Merci.
Voilà.
Au revoir.
Donc, après le général Georges Nader, je comptais avoir le témoignage aussi du Sud-Liban des sœurs Antonines. Vous vous rappelez, j'avais la mère supérieure, sœur Naza, et elle essaye de nous joindre maintenant par Zoom. Et on va, bien sûr, c'est parfois difficile au Sud-Liban, mais pour ne pas vous décevoir, je suis sûr qu'elle finira par nous joindre, vous l'avez déjà écouté. Il s'agit de voir la présence de ces écoles qui continuent malgré tout à l'approche des examens, à l'approche de tout ce qui peut rendre au Liban sa présence et son ouverture au monde, puisque ces écoles franco-libanaises par l'éducation reçoivent, la première constatation qu'on a pu faire, plus de 95% d'étudiants musulmans chiites. Vous imaginez, et cette présence des sœurs, elle est voulue même par les familles musulmanes elles-mêmes, surtout chiites. C'est pour vous dire que la communauté chiite n'a pas d'égarement. Ils se rendent compte que sans cette ouverture, et beaucoup d'entre eux sont très francophones, nous l'avons constaté à bord du Charles... à bord du Mistral, quand l'amiral Magne et moi-même sont conseillés, que ces chiites parlaient un français presque impeccable. Nous avons reçu des lettres, et tout cela grâce à la présence de ces écoles des sœurs Antonines. Mère Naza, qui est supérieure de cet ordre, une vraie battante, combattante, et en plus, fille d'un prêtre au Liban, on dit Philippe, d'un prêtre maronite, pour préciser que c'est le privilège de l'Église d'Orient, que l'Église d'Occident cherche à avoir. Mais on peut dire que cette présence des écoles est fondamentale. Et elle joue plusieurs rôles. Le premier, c'est de faire de la communauté chiite une communauté éduquée presque à la manière de la communauté chrétienne. Ce qui unifie les deux communautés. Imaginez en France que les écoles pratiquent hors contrat ou sous contrat puissent accueillir le maximum de la communauté musulmane, algérienne ou marocaine, et qu'elles finissent, et nous avons des cas d'ailleurs positifs, mais pas autant qu'au Liban. Vous n'avez pas des écoles privées catholiques qui ont 95% d'étudiants algériens ou marocains ou musulmans. Peut-être dans le public, dans certaines zones ou dans certaines villes, Carpentras ou les zones qu'on a appelées Z, je crois, et toutes ces zones qu'on a classées. Mais au Liban, c'est le cas. Les écoles privées, catholiques surtout, et surtout les écoles des sœurs de la Sainte Famille et des sœurs de la famille, la Sainte Famille libanaise fondée par le patriarche maronite, le patriarche Douaï, qui est maintenant est vénérable et béatifié à Rome. Cette puissance que nous avons, celle de l'éducation, c'est celle de la séduction de l'âme chrétienne. À côté de sœurs Antonines, nous avons aussi d'autres missionnaires. Nous avons les missionnaires des pères jésuites, les pères qui sont arrivés au XIXe siècle. Les meilleurs et les premiers, c'était des franciscains. Et figurez-vous, c'était des Italiens. Et le Liban a parlé souvent l'italien jusqu'à la fondation du Collège maronite. Et le roi de France, François Ier, s'en est un peu inquiété. Il a fini par envahir le Liban à sa manière en envoyant des missionnaires. Des franciscains surtout, des dominicains, des franciscains qui étaient déjà au Maroc et qui ont un peu semé au Liban cet esprit de l'éducation, les frères des écoles chrétiennes, les maristes, tout ça, ce sont des ordres tellement familiers au Liban et connus, à tel point que l'écrivain français Bernanos a dit « on a chassé ces ordres de partout, surtout les jésuites, ils ont refait une autre France ». Et nous parlerons de ces martyrs, de martyrs de cette communauté. Mais maintenant que je vois apparaître sur mon écran la présence de la mère supérieure Naza El-Khoury, qui est mère supérieure de cet ordre des sœurs Antonines, et qui va, je lui laisse la parole, pour qu'elle nous raconte un peu la situation aujourd'hui de ces écoles, de l'action qu'elles mènent et de ses besoins dans cette région pour que les Français de bonne volonté puissent l'entendre, des Français courtois bien sûr, et qui aiment encore leur présence au Liban, puisse comment aider le Liban à garder ce niveau supérieur de nos écoles. Mère Naza, bonsoir, vous m'entendez ?
Bonsoir Antoine, oui, je vous entends très bien.
Alors, je vois la croix derrière vous, vous êtes dans votre bureau de supérieur.
C'est ça.
Nous vous écoutons. Quelle est la situation au Liban, surtout dans vos écoles, surtout dans le sud, et comment vous faites pour résister ?
Antoine, nous sommes fondés au Liban, nous avons été fondés au Liban, ce qui fait que nos écoles et nos institutions seront répandues à travers le Liban, de l'extrême nord à l'extrême sud. Ce qui fait qu'on est même dans la région frontalière, dans des villages tout à fait limitrophes par rapport à Israël en Terre Sainte. Mais nous avons aussi à Nabatilly une mission. Ce qui fait que nous avons trois écoles au sud. Je vais parler d'abord des écoles qui sont dans les régions chrétiennes, qui sont Armesh et Debel. Là où les
villes du sud
se trouvent.
Ce sont des villes du sud, oui.
Villes du sud et des villages, si vous voulez. C'est pas des villes, mais ni des villages. Ce sont de grands villages, de petites villes. Les écoles, même pendant la situation vraiment très difficile, parce que vous savez bien que dans ces régions-là, les parents, les habitants qui sont chrétiens ont refusé de quitter leur maison, leur village, ils ont résisté jusqu'au bout. Maintenant, ils sont plus ou moins encerclés. On ne peut pas entrer ni sortir que dans des convois qui s'organisent de Beyrouth jusqu'au sud et de retour du sud jusqu'à Beyrouth, après avoir suivi toutes les procédures données par la FINUL et l'armée libanaise. On doit envoyer nos passeports ou nos cartes d'identité, les matricules de nos voitures pour faire partie. Ils vont nous répondre si c'est accepté ou pas pour aller visiter les régions-là. Nos sœurs, moi, même pendant les périodes les plus difficiles, elles assuraient la présence totale dans le village à côté des habitants. Parce qu'elles m'ont dit, on s'est entendu, comme quoi si vraiment on est là avec les gens, avec les habitants pendant les moments ordinaires, on ne va pas les laisser, non, pas du tout, pendant les moments difficiles. Ils sont restés là avec les gens. Même, je dirais, ils ont continué l'enseignement. Au début, c'était en ligne, à distance, mais par la suite, c'était en présentiel. Et même pendant les périodes difficiles, la sœur qui est responsable du préscolaire amenait les élèves, les petits-enfants, à l'école dans des sous-sols parce que c'était difficile pour eux d'apprendre, ça veut dire d'être scolarisés en ligne, soi-disant scolarisés, entre guillemets. Voilà, ce que j'apprécie beaucoup et ce que je tiens à dire et à remercier mes sœurs vraiment qui sont restées jusqu'au bout avec les gens et jusqu'à présent aussi. Même certaines ont eu des problèmes de santé, même nous avons perdu une sœur à cause du fait d'être encerclée au sud, on n'a pas pu l'amener, on est allé jusqu'au Vatican demander la faveur pour l'amener en Croix-Rouge internationale. Elle est décédée actuellement, elle était la supérieure de Debel. Alors, comment les sœurs fonctionnent? Elles sont là, elles travaillent avec ce qu'elles peuvent faire. Quant à Nabatilly, la situation est tout à fait différente. À Nabatilly, c'est une région chiite, Nos élèves à Nabatieh sont à 95% des non-chrétiens. Mais on a une affaire de 1500 élèves, au moins, et les gens tiennent à ce qu'ils continuent de continuer leur année scolaire en ligne, quelles que soient les conditions. Dans nos écoles, les écoles qui sont un peu partout, on leur a demandé d'entrer dans nos écoles, ça veut dire de continuer l'année dans nos écoles situées un peu partout. Non, ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rester dans notre école, même si c'est en ligne, parce que nous appartenons au collège Notre-Dame des Sœurs Antonines Nabatieh. Voilà, actuellement, les bâtiments de l'établissement scolaire sont vraiment très atteints, trop même. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Quand il y a eu le cessez-le-feu, ben, le premier jour, les sœurs ont essayé de se rendre à Nabatieh pour voir la situation, mais on ne les a pas laissées arriver jusque-là. Elles ont dû retourner. Et voilà, on attend pour voir vraiment la situation, mais le comité des parents tient à ce que l'école, à ce qu'on continue l'enseignement, même si c'est en ligne l'année prochaine. On va voir.
Voilà, alors ma sœur, merci pour ce
Concernant.
constat.
Oui.
La grande question qu'on se pose à la fin de cette année, j'ai entendu ce que j'ai pu entendre du Liban, il me semble avoir entendu presque ce que nous avons, notre génération, nous avons vécu en 76 concernant les diplômes de baccalauréat et de brevet. Alors là, il y a une
Oui.
décision qui a été prise de laisser les élèves de brevet passer les examens, et ceux du baccalauréat, ils ont des attestations sur leur bulletin scolaire tenant compte des notes jusqu'en mars 2026 pour voir le niveau de l'élève. Est-ce que vous l'appliquez dans vos écoles pour permettre aux étudiants d'avancer et de connaître vraiment une promotion de leur année et leur...
Écoutez, dans toutes nos écoles, à part les écoles du Sud, on a pu continuer l'année presque normale, comme d'habitude. Et on était vraiment, dans toutes nos écoles, nous étions prêtes à présenter les examens officiels. Maintenant, vous avez soulevé la question du brevet. Le brevet a été présenté dans les établissements scolaires des élèves, c'est-à-dire sur place. Chaque école s'est chargée de ses élèves. Voilà, c'est pourquoi il y a eu des examens de brevet normaux. Disons, je vais donner l'exemple de Nabatieh. Les élèves de Nabatieh se sont rendus dans nos établissements scolaires, les autres en dehors de Nabatieh, répandus un peu partout dans le Liban, et ils ont fait leurs examens dans nos établissements, les autres établissements, mais en relation tout de suite avec nos élèves sur le champ et avec leur école, en coordination avec l'établissement de Nabatieh. Alors que pour les classes terminales, le baccalauréat, c'était un peu plus difficile. Il y a eu des va-et-vient à ce niveau-là. Les parents ont refusé, les élèves ont un peu manifesté parce que l'année était plus difficile pour eux. Ça veut dire les élèves qui veulent présenter leurs examens sont obligés de se rendre dans des établissements scolaires qui ne sont pas les leurs, de se déplacer. Ils ont ben dans certaines régions, c'est pas trop évident. Ça veut dire il y a la question de la sécurité. Mais à mon sens, maintenant, on a donné une opportunité à ceux qui veulent présenter leurs examens pour une raison ou pour d'autres, et surtout les demandes libres. Ils peuvent le faire dans des conditions spécifiques. Mais l'opportunité a été donnée à tous les élèves d'avoir une attestation. Nous tenons en tant que chef d'établissement et en tant que pédagogue, éducateur, si vous voulez, qu'ils se basent sur les notes des écoles. Parce qu'on ne peut pas délivrer une attestation comme ça, quelles que soient les conditions. quel que soit le niveau non plus. Ça, c'est pas bon pour nous. Pour nous, en tant que, si vous voulez, en tant que Libanais, vraiment très connus pour le niveau de notre niveau éducatif, pour nos diplômes et pour les gens qui veulent aussi avoir l'opportunité de se spécialiser en dehors du pays.
Et vous, en tant que, bien sûr, que institution, une des rares dans le Sud, est-ce que vous avez d'autres ordres religieux dans l'éducation qui restent? Est-ce que les ordres, par exemple, les Sœurs de la Sainte Famille, est-ce qu'ils
Non,
sont
non, non.
tous aussi organisés ou vous êtes
Non,
vraiment
non,
les
non,
combattants
non.
solitaires?
Non, 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 on est les seuls. Si vous
Incroyable.
voulez, à Debel Hermesh, nous sommes les seuls qui sont restés en tant que religieuses. Mais il y a encore l'école des Pères Antonins qui est à Majayoun et d'autres écoles à Majayoun aussi qui ont été bombardées. Mais si vous voulez, enseignement en présentiel, c'était nous.
C'était vous. Bien sûr, les autres n'arrivent pas à atteindre. Est-ce
Alors,
que...
ça dépend de la situation. Par exemple, nous, à Aitanit, qui est un village de la Beka, on n'a fait aucun jour de présentiel dans l'enseignement parce que tous nos élèves étaient déplacés. Ils n'étaient pas sur place. L'école fonctionnait aussi à distance. C'est tout près de Machrara, pour vous situer un peu.
C'est une véritable situation de résistance, mais est-ce que je dirais, la nouvelle, on parlait de la nouvel état d'esprit de l'armée libanaise après ces accords signés à Washington, un des articles stipule que l'armée libanaise remplacera à chaque fois que l'armée d'Israël se retire d'un village d'arriver et d'assurer la sécurité, même contre la volonté de la milice de Hezbollah qui est aujourd'hui hors la loi. Sans faire de la politique, ma question est simple, est-ce que votre ordre sera faire d'accompagner l'armée libanaise en quelque sorte pour installer l'école où vous résistez sans que cet article soit appliqué, sans que l'armée libanaise revienne. Supposez qu'il y a des vraies escarmouches, des vraies batailles entre la milice de Hezbollah dans la région et même des membres de notre armée libanaise. Quelle sera votre situation à ce moment-là?
Honnêtement, je ne saurais pas dire maintenant. Toutefois, nous cherchons toujours la sécurité. La sécurité et des sœurs et la sécurité des élèves. Parce qu'au sud, on a, si vous voulez, on n'a que des écoles. En Nabatieh, à un moment donné, au début de la guerre, on a été obligés de quitter parce qu'on nous a demandé de quitter. Si vous sortez un peu de l'école, tout ce qui est l'entourage de l'école est bombardé. Notre école, c'est vrai, a été, si vous voulez, menacée en quelque sorte. On a eu des bombardements directs, mais je pense que l'école n'a pas été visée directement en tant qu'école. Mais on a reçu des bombes. Cependant, les dégâts proviennent de l'environnement. Ça veut dire tout ce qui est vitre, tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est, si vous voulez, smart board et matériel électronique. Tout est parti, soi-disant. Mais à Debel Hermesh, par exemple, l'école n'a pas été non plus, les écoles n'ont pas été bombardées directement, mais on a des fissures dans les murs tout autour, dans les toits, on doit tout arranger. Ben, il y a même un danger pour les élèves pour l'année prochaine, parce que maintenant, la saison d'hiver est déjà derrière nous, alors que l'année prochaine, c'est difficile si on n'arrive pas à arranger les bâtiments.
Voilà.
Voyez la situation. Cependant, du côté sécuritaire, on est là, on était là avant l'armée libanaise, on est là avec l'armée libanaise, on est là tant que la situation nous le permet.
Voilà. Et vous le saurez après, en attendant le retour de Christ que vous servez. Je laisse la voix de la radio Courtoisie nous parler de sa résistance à elle. Voilà.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Voilà, et je reviens vers mon invité principal du fond du Liban qui souffre mais qui résiste, Mère Nazha El Khoury, supérieure de l'ordre des Sœurs Antonines, qui se trouve au sud du Liban et malgré le danger, malgré les menaces, elle continue à former les jeunes étudiants à la langue française, à la culture historique et surtout à un vrai catéchisme avec un respect total de la présence des musulmans. Ma mère, vous avez une méthode pour ne pas pratiquer un prosélytisme tout en attirant beaucoup de musulmans vers la religion. Comment vous faites ?
Je vais parler un peu de notre expérience en Abatiyé, parce que à Debel Hermesh, ben, ce sont des régions chrétiennes, la catéchèse est inclue dans l'horaire scolaire, et la suite, les sœurs sont là aussi au village, dans tout ce qui est pastoral, et les dimanches, leur présence au village, normal. C'est un cours régulier qui se donne en tant que catéchèse et le suivi à la paroisse, c'est clair, première communion, tout ce qu'il faut. Alors que la situation à Nabatiyé est différente. Comme on a 95% de nos élèves qui ne sont pas chrétiens, les 5% qui sont là proviennent de villages mixtes. Chrétiens, musulmans, ben nous les suivons dans leur village. Les sœurs passent dans les paroisses pour être présentes à ces élèves-là. Et s'il y a possibilité aussi, ils les suivent après les classes. Pour les 95% qui ne sont pas chrétiens, si vous voulez, ce qu'on appelle la causerie du matin, ce qu'on appelle l'ambiance religieuse existe. Dans la causerie du matin, on fait toujours une prière qui est générale. Ça veut dire qu'on ne table pas sur, on ne dit pas Seigneur Jésus. On dit mon Dieu. En arabe, Allah, mon Dieu. Mon Dieu, Ya Ilahi, Allah, et on fait la prière en général avec des demandes, avec des remerciements, avec une action de grâce, avec tout, et les élèves le font jusqu'au bout, et parfois eux-mêmes, les élèves préparent la prière du matin. Vous voyez, la causerie. Alors que même toutes les valeurs chrétiennes passent d'une manière ou d'une autre dans ces orientations, dans cette causerie du matin. Et dans les heures, dans les périodes de, si vous voulez, de civisme, de partage, dans les activités qui se font, dans les activités culturelles, tout genre d'activités, les activités sociales, les actions sociales qui se font, les visites, les sorties, voilà, tout est là.
Voilà. Tout et est vous là. Avez des Mais cas...
On sent que les élèves vraiment sont imprégnés, si vous voulez, de valeurs chrétiennes et ils les vivent comme d'habitude.
Mais ma mère...
Mais sans nommer les choses par leur nom.
Bien sûr, ma mère, notre grand patriarche Ouayek, qui est venu en France pour déclarer sa volonté d'avoir un grand Liban, a abordé ce problème en disant « du sud comme du nord, nous souhaitons garder la communauté musulmane avec nous au lieu d'avoir un mont Liban à 100% chrétien, parce que nous avons une mission envers eux. » Et depuis, les gens en parlent peu. Dans ma jeunesse, j'entendais, et dans ma classe, à Jamour, à l'école de la sagesse, chez les pères maronites et jésuites, il y avait beaucoup de conversions, surtout dans les familles musulmanes, assez, qu'on appelait bourgeoisie musulmane. Il y a eu le fameux père Osairan qui s'est converti, c'était un grand monsieur chiite, et il a fondé à Fanar, et il a pris le verset du Coran, comme vous dites, il y a Dieu qui soit que Dieu, et Jésus, fils de Dieu, il ajoute. Est-ce que vous avez des conversions où il y a une peur qui se fait?
Non, non, il y a.
Exercer contre la. Il y a beaucoup de voix encore.
Il y a des conversions qui se font. Mais Antoine, comme vous le savez bien, ben, c'est pas si facile que ça de passer d'une religion à une autre, surtout pour nous, chrétiens. À un moment donné, quand j'étais directrice du collège, d'un collège ben, qui se situe à Hazmi, dans une région chrétienne, mais on est à deux pas dans la banlieue, de la banlieue sud. Beaucoup d'élèves demandaient, surtout les élèves qui étaient scolarisés dès la petite section jusqu'en terminale chez nous. Ça veut dire, et dans notre programme au Liban et surtout dans l'école où j'étais, ben, j'avais mis un pourcentage. On ne dépasse pas, à ce moment-là, on ne dépassait pas les 15%. Maintenant, on a fixé les 20% comme pourcentage de non-chrétiens. Mais ils doivent suivre le programme de l'école. Nous nous affichons école catholique. Notre règlement intérieur, le premier article, le Collège Notre-Dame des Sœurs Antonines, Hazmi et Jamour est une école catholique dont la religion chrétienne se donne à l'école. Ça veut dire avec tout le cadre. Tout ce qui est aussi insigne chrétien, les statues, les images religieuses, les icônes, la salle de catéchèse. Les élèves qui sont scolarisés, par exemple, à Hazmiye, doivent suivre à 100% le programme normal, ordinaire, horaire de catéchèse, de messe, d'activités religieuses, de bonnes actions, tout ça. Ils ne sont pas obligés, si vous voulez, de prier à haute voix, mais ils peuvent prier ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes, mais ils ne sortent pas de la classe.
Voilà. Alors, ma mère, je ne veux pas...
Tous égaux. Personne ne sort de la classe.
Ben, on atteint un acmé, comme disent les Grecs, un sommet ici de cette vocation. Pour ne pas choquer certains auditeurs qui chaque fois me disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Mère Naza qui parle ?» Alors je vous laisse nous dire, pour ne pas vous fatiguer dans ces dernières 5 minutes, quels sont vos besoins ? Est-ce des livres, des bourses ? Pour que ceux qui nous entendent, comme c'est déjà arrivé pour certains, ils me le demandent, que vous puissiez aider Mère Naza, il suffit bien sûr de m'envoyer un mail. Votre aide sera transmise à Mère Naza qui vous répondra par son mail. Mais j'aimerais bien entendre de vous, quels sont vos vrais besoins ?
Antoine, ce qui... vraiment, c'est des bourses pour les élèves, sûrement. Alors, tout ce qui est livres, bouquins, lectures, c'est bon. Là, si vous voulez, on en a le plus aussi, c'est bon et c'est meilleur. Cependant, le problème se situe actuellement au niveau des scolarités. Surtout après la crise économique, après l'inflation, après tout ce que le Liban a vécu et continue à vivre, c'est le problème des scolarités. Les parents difficilement arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. Je peux vous dire que à Debel Hermesh, avec des gens que je connais en France, on a pu, si vous voulez, régler la scolarité de pas mal d'élèves parce que au sud, il n'en est pas question. C'était impossible de pouvoir payer la scolarité à Debel Hermesh. Impossible avec ce que vivent les gens, avec tout ce qu'ils ont perdu comme terrain, comme arbres fruitiers, comme l'agriculture et tout a été endommagé. Alors, si quelqu'un voudrait nous aider, ben je ne vais pas dire pour tout ce qui est bâtiment, ça dépasse nos limites à nous aussi, on attend pour voir, mais si quelqu'un peut aider les élèves pour la scolarité,
Ça
quelle que
serait.
soit la somme, ça peut aider.
Oui,
Ça peut aider.
absolument.
Ça peut soutenir des familles.
Voilà, à côté de cette guerre de résistance au Liban des chrétiens, pour sauver aussi nos musulmans de la tentation radicale, vous savez, l'égarement quand vous regardez tous ces pays, et même rien que l'Iran qui se réclame d'une vieille civilisation 6 fois millénaire, et bien qui enferme ses femmes, les met sous tchador et la moindre manifestation dans la rue fait des milliers et des milliers de morts, on en parle de 30 000. Je vous laisse à ce moment-là à vous et à votre générosité. Vous pouvez m'écrire un mail et nous aiderons les sœurs Antonines qui sont des vraies guerrières de Dieu, de l'éducation et surtout, chers auditeurs, sachez de la francophonie heureuse, mais là, elle est religieuse aussi. Regardez les problèmes que vit la France, les écoles privées qui doivent aller sous contrat, hors contrat, les problèmes que se sont posés. Nous avons invité Anne Cofinier plusieurs fois pour qu'elle parle, les restrictions de plus en plus dures à l'égard des collèges de marque comme Stanislas, comme Franklin, comme Saint-Jean-de-Passy. Tout est cause aujourd'hui dans ce pays où on va jusqu'à même voter. L'euthanasie, vous imaginez, on a peur de ce mot. Et je vous laisse juge, le Liban est un pays qui résiste. Et nous allons remercier Mère Naza et lui laisser le dernier mot avant d'écouter une suite de Handel, la numéro 7, en sol mineur, mais vraiment interprétée par le grand Eric Heitzig, qui est une merveille. Je ne veux pas l'interrompre, mais ça peut nous aider à méditer. Glorieusement. Alors, Mère Naza, votre dernier mot.
Antoine, comme j'aime dire que si le patriarche Hoyic a dit que ma religion, c'est le Liban, moi je dis aussi que mon amour, c'est le Liban. Dieu est amour, mais notre vie au Liban, notre Liban est un amour. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin qu'on pense à ces Libanais qui résistent. Et nous, quand on parle de la France, on se dit que la France est notre mère et la mère du Liban, qui l'a soutenue pendant tout son parcours depuis le 12e siècle. Pensez à nous, pensez à nous, pensez que nous souffrons pour résister. On nous parle de résilience, ben on est déjà expert à ce niveau-là. Mais quand même, quelles que soient les conditions, on a besoin d'être soutenu de tout point de vue. Et je vous remercie
C'est nous qui vous
infiniment,
remercions.
Antoine, de me donner l'opportunité à chaque fois de parler de notre mission. Nous sommes là, nous avons une mission, nous sommes au Liban et nous continuons, quelles que soient les conditions.
Bien sûr, ma mère, vous
Merci
êtes
beaucoup, avec beaucoup d'espérance.
absolument.
Avec beaucoup d'espérance pour la paix au Liban.
Vous êtes à l'endroit qui fut au sud du Liban, le royaume de Jérusalem, hein. Les rois de France étaient là-bas et nous souhaitons, comme je le disais au général Nader tout à l'heure, que des soldats français y restent avec une autre force qu'on appellera européenne, française et italienne, pour que ces soldats qui connaissent tant le Liban depuis plus d'une génération restent avec nous. Alors
Nous
je...
l'espérons bien.
Absolument. Nous
Et nous
attendons votre
prions pour ça.
réponse. Merci beaucoup, Mère Naza, et
Merci,
nous
Antoine.
vous attendons en France si vous venez voir l'œuvre d'Orient. Et Monseigneur de Voillemont, pour qu'on vous reçoive dans le studio même. Et voici
Merci
ce
beaucoup.
que. Merci beaucoup, ma mère. Voici ce que écrit Heitzig, Eric Heitzig, qui est aussi écrivain de talent, commente l'œuvre qui va nous interpréter, la suite en sol mineur numéro 7, composée par Handel vers 1720, pour clavecin, bien sûr, mais avec un style remarquable. Et voici ce qu'écrit Eric Heitzig, c'est toute la pompe de la cour de George Ier. Une fanfare retentit, sonnant joyeusement. L'Allemande, au rythme galant, s'enchaîne à la courante, pleine d'allégresse. Après la sarabande, à un temps au temps éploré, abattu, et la guigue insouciante, nous nous attendons à la coda. Or voici une passacaille qui fait rebondir l'œuvre et nous rappelle l'éclat des trompettes de l'ouverture. Et dans cette dernière partie, le thème est souvent à l'état de schéma, seule l'harmonie étant indiquée. La registration et les variantes sont laissées au goût de l'interprète, dont le compositeur requiert la collaboration. J'ai donc transcrit ces variations pour le clavier actuel afin de donner à ce thème, d'un enthousiasme contagieux, la possibilité de s'embraser. J'ai souvent écouté dans les concerts d'Éric ce morceau de la passacaille finale avec ses propres variations comme un bis de feu d'artifice final. Je vous laisse méditer toute cette passacaille jusqu'à la fin de cette émission et je vous dis à la prochaine pour une autre émission sur la francophonie heureuse.
Thank you.
Voilà, l'harmonie, l'énergie contagieuse, comme dit Eric Hyde, l'interprète de cette suite numéro 7 en sol mineur, de toutes ces suites écrites par Handel, la période en fait entre 1720 et 1730, les plus grands génies de la musique baroque, Couperin, on fera des suites pour clavecin, Rameau lui-même, et Bach écrira ses partitas. Que Eric Hatzik a enregistré d'ailleurs intégralement aussi. Et ce qui est extraordinaire dans cette musique de Handel, il y a un mot de Beethoven qui nous revient, c'est que chaque fois que je compose, disait Ludwig van Beethoven, il y a ce géant qui est au-dessus de mes épaules, qui n'est autre que Handel. Et il a emprunté beaucoup de thèmes qu'on retrouve, de même des thèmes à Bach. Je peux vous les faire entendre, qui sont clairs. Et nous avons des lettres de Beethoven où il suppliait ses amis de lui envoyer les partitions. Aujourd'hui, on les a d'un... en appuyant un bouton, ils sont imprimés. Et pour étudier ces génies et pour ne jamais renoncer, surtout au clavecin bien tempéré. Et tout le reste, et pour vous dire que les influences entre les génies sont comme les influences dont je parlais avec Mère Naza El Khoury, ce prière des Antonines, il y a comme une forme de séduction. Et on séduit l'autre par une intensité de la vérité et par une intensité de ce qui plaît, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est un, de ce qui est vrai et de ce qui est. Et la vérité est ce qui est, comme disait Saint Augustin. Donc il y a un mouvement religieux dans toute musique. Et les plus grands historiens de l'art ont dit « tout art est avant tout religieux ». Religieux dans le sens d'une forme, on est habité par une forme de transcendance. Et je crois que la résistance des chrétiens au Liban est une forme aussi de résistance dans la beauté, le bien, mais dans le sang aussi. Et les douleurs, les accents tragiques qu'on entend dans les tonalités musicales, c'est en sol mineur. Et la plainte de la sol mineur ou cette tonalité que Bach affectait beaucoup, la si mineur, sa messe en si mineur, son chef-d'œuvre qu'il a présenté, et nous le savons aujourd'hui, que quand il a montré ce qu'il a lui-même composé, et il en a composé plus de 15 à 16 heures de travail à Leipzig pour les cantates hebdomadaire et pour tout le reste, il a rassemblé ce qu'il a écrit de mieux dans la messe en si pour la présenter comme un peu un CV à l'humanité. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui des parodies, c'est-à-dire il a pris les meilleurs de ses contacts et il a formé cette messe en si avec l'introduction et le kyrie et puis tout le reste, ce qu'il a senti comme étant le meilleur de sa composition, de son écriture, il le rassemble. Et même, il pouvait parodier ce qu'il écrivait en religieux pour le faire passer dans le laïc, dans ces fameux cantates du café de Zimmermann. Mais il est temps de vous quitter et de vous souhaiter un été agréable et je vous retrouve, comme toujours, avec la Franconie heureuse.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Francophonie heureuse, dirigé par Antoine Assaf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 30 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.